Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte à tirer des médias suivants. Vert et le Moniteur acadien. Au programme, cultiver le curcuma. Nicolas Parisi et Sœur Rita Barrio, main dans la main au service des plus démunis. Et Doux Parfum. Bonne écoute.
Cultiver le curcuma, un texte de Gabriel Rochon-Sabourin, paru au printemps 2023 dans le magazine Vert. Si nous vous disions que vous pouvez non seulement cultiver du curcuma chez vous, mais que vos plants peuvent même devenir luxuriants et offrir une récolte abondante, le croiriez-vous? Cette belle plante au rhizome célèbre, autant pour leurs vertus médicinales que culinaires, se cultive avec succès au Québec et est même considérée comme une culture facile et adaptée aux petits espaces. La clé du succès? Cultiver le curcuma en pot et le protéger des températures froides. Originaire de l'Asie du Sud, le curcuma, Curcuma longa, est cultivé pour ses rhizomes à la chair orange vif, que nous consommons frais ou moulus. Parent avec le gingembre, il est une des épices les plus populaires de la planète. En cuisine, le curcuma est un indispensable de plusieurs mélanges d'épices riches en saveurs comme le curry, le colombo et le garam masala. Contrairement aux autres épices qui l'accompagnent, son goût est plus délicat avec une touche d'amertume. Malgré sa saveur discrète, son utilisation dans des recettes ne passe jamais inaperçue, car il colore les plats et les sauces de sa vibrante couleur jaune. Une intensité qui contraste avec sa douceur. Sa célébrité ne s'arrête pas à ses mérites culinaires, car il détient à son actif une longue liste de bienfaits pour la santé. Sa haute teneur en curcumine, soit le pigment naturel qui donne sa fameuse couleur jaune, en fait un puissant antioxydant et anti-inflammatoire. Il est également utilisé pour traiter les troubles digestifs et les problèmes de peau en médecine ayurvédique, médecine traditionnelle indienne ancestrale. En fait, ses bienfaits sont si reconnus au sein de la population qu'il n'est pas rare de voir des gens prendre des suppléments de curcuma dans leur quotidien. Toutefois, il est très important de bien se renseigner auprès de professionnels compétents avant d'intégrer des suppléments à son alimentation. D'un point de vue purement esthétique, le curcuma n'est pas non plus sans intérêt. En culture intérieure ou extérieure, les jardiniers apprécient son beau feuillage tropical, sa grande taille et ses fleurs vert vif ou blanches. Commencez la culture en février ou un peu plus tard si vous êtes équipé pour la culture intérieure, éclairage, serre, etc. Gardez en tête que vous voulez que vos plants profitent au maximum de la saison la plus chaude à l'extérieur. Le curcuma en cuisine. Râpé, en poudre ou en morceaux, le curcuma se consomme de plusieurs manières, mais c'est sous sa forme fraîche qu'il offre le plus de bénéfices pour la santé. Pour le consommer tout l'hiver, mettez vos surplus dans le congélateur, car les rhizomes frais ne se conservent que quelques semaines sur le comptoir ou dans le réfrigérateur. Vous pouvez ensuite sortir un rhizome et le râper selon vos besoins du moment. C'est néanmoins en poudre que le curcuma est le plus souvent consommé et cette méthode assure une conservation de longue durée. Pour ce faire, faites cuire à la vapeur les rhizomes quelques minutes, puis coupez-les en tranches que vous sécherez au four. Une fois bien sèches, réduisez-les en poudre avec un moulin et le tour est joué. Psst! Feuilles comestibles! Saviez-vous que les feuilles du curcuma sont comestibles? Lors de la récolte, vous pouvez prendre des feuilles pour les utiliser en cuisine. En effet, les feuilles de curcuma sont utilisées dans de nombreux plats orientaux, dont le goulaï, un délicieux plat de curry. Petit guide de culture. 1. Sélectionnez vos rhizomes. Pour assurer la germination, utilisez des rhizomes frais. Privilégiez les rhizomes biologiques, car le curcuma en culture traditionnelle risque d'avoir été traité pour empêcher la germination. Tout comme le gingembre, soyez attentif au nombre de nodules présents. Le plus est le mieux, sur les morceaux de rhizome. 2. Préparez la germination. N'hésitez pas à subdiviser des morceaux si ceux-ci ont plusieurs nodules et sont d'une grosseur intéressante. De manière générale, 2 à 3 nodules correspondent à un bon nombre. Rappelez-vous que plus le morceau est volumineux, plus la plante aura des réserves pour s'épanouir. Avant de planter vos rhizomes dans le sol, faites germer les morceaux de curcuma. Pour ce faire, vous pouvez mettre les rhizomes dans un fond d'eau sans les submerger ou les mettre dans des essuie-tout mouillés. Soyez patient et pensez à changer l'eau ou à humidifier régulièrement le papier. Alors que la germination peut survenir en quelques jours, pour certains morceaux, il n'est pas rare qu'elle prenne plusieurs semaines. 3. Préparez le sol et votre contenant. La culture en pot assure de nombreux avantages, dont la possibilité de déplacer la culture d'environnement selon vos besoins. Le choix du pot est une étape cruciale pour le succès de votre récolte. Assurez-vous d'utiliser des pots avec plusieurs trous pour l'évacuation de l'eau ou utilisez des pots en géotextile. La surface de plantation est plus importante que la profondeur du pot. Privilégiez un large contenant plutôt qu'un contenant étroit et profond. Assurez-vous d'être capable de déplacer les pots, même lorsque ceux-ci sont remplis de terre. 4. Plantez vos rhizomes. Profondeur, 2 à 4 pouces de profondeur avec les germes vers le haut. Distance entre les rhizomes. Le curcuma est reconnu pour performer dans de petits espaces et supporte très bien d'être planté à des intervalles de 4 à 6 pouces. Terreau. À la plantation, un ratio de 70% terreau, 30% compost est adéquat. Après un mois, vous devriez voir de belles tiges droites s'ériger du sol. Ces belles tiges vont déployer leurs grandes feuilles vertes et la plante va gagner en hauteur jusqu'à atteindre environ 2 ou 3 pieds de haut. 5. Entretien et culture. Alors que le curcuma peut être une très belle plante de culture intérieure si elle a suffisamment de lumière directe, vous pouvez également sortir vos pots à l'extérieur lorsque les derniers risques de gel sont passés. Comme le froid lui est fatal, il est mieux de ne pas prendre de risques en les sortant trop précocement. Luminosité. Plein soleil, mais tolère bien la mi-ombre. Arrosage. Étant une plante tropicale, elle a besoin de beaucoup d'eau, mais également d'un excellent drainage. Arrosez abondamment la plante tout en vous assurant que l'eau ne stagne pas dans vos pots. Nutriments. Le curcuma aime les sols riches. Soyez généreux avec le compost et n'hésitez pas à utiliser des émulsions à base d'algues lors de vos arrosages. 6. Que faire à l'automne? À l'approche des risques de gel, rentrez vos pots pour permettre aux plants de continuer le développement de leurs rhizomes. Il leur reste effectivement encore plusieurs semaines avant d'être fin prêt pour la récolte. Plus les rhizomes seront matures, plus ils seront goûteux et propices à la conservation. Vous pouvez mettre vos plants sous une fenêtre dans votre maison, dans votre garage, avec une lampe de culture ou dans votre serre. 7. La récolte et la conservation. 10 mois après la plantation, il est temps de déterrer votre curcuma. Rien de mieux que de récolter à l'approche de l'hiver. Lors de la récolte, vous pouvez étendre une bâche sur le sol et vider le contenu des pots dessus ou utiliser une petite pelle et soulever délicatement la terre pour en dégager les rhizomes. laver les rhizomes sous l'eau afin d'en retirer la terre. Il y a de fortes chances que votre récolte excède vos besoins pour l'année. Triez vos rhizomes et gardez les plus intéressants en termes de nodules et de taille pour la plantation de l'année suivante. Vous pourrez tout simplement les entreposer dans un bac ou une boîte avec des copeaux de bois et placer le tout dans un endroit frais et sec. Il n'est pas nécessaire d'avoir un caveau pour conserver efficacement les rhizomes. Nous avons tous un placard plus frais que les autres dans nos maisons. C'était « Cultiver le curcuma », un texte de Gabriel Rochon-Sabourin, paru au printemps 2023 dans le magazine Vert.
Nicolas Parisi et sœur Rita Barriot, Main dans la main au service des plus démunis, un texte de Damien Dauphin, paru le 12 avril 2023 dans le Moniteur acadien. Ils ne sont plus de ce monde, mais ils avaient à cœur leur communauté et n'ont jamais ménagé leur temps ni leurs efforts pour venir en aide aux gens infortunés. Récit d'une belle rencontre, celle de la fondatrice de la Maison Nazareth et de celui qui fut pendant un an et demi président du conseil d'administration de cet organisme. Nos itinérantes et itinérants sont très reconnaissants à notre endroit. Ne craignez pas, ils font tout pour nous aider et nous protéger. Certains d'entre eux nous affirment déjà que l'esprit du lieu est en train de passer de la violence à plus de paix et de la tristesse à plus de sérénité. Ainsi s'exprimait sœur Rita Barriot il y a tout juste 3 ans, en avril 2020, au cours d'une entrevue à la Maison Nazareth, rue Albert à Moncton. À ce moment-là, l'heure était au confinement, en pleine première vague de pandémie de COVID-19. Près de la moitié des employés et des bénévoles de l'organisme caritatif avait déserté les lieux, mais pas la fondatrice, revenue dans la région un an plus tôt à l'appel du directeur général, Jean Dubé. J'ose vous dire, au risque de vous surprendre, que je ne cesse de bénir le Seigneur à cause de cette crise de COVID-19 qui nous oblige à respecter les normes raisonnables de propreté, poursuivait-elle. Lorsque la pandémie a éclaté, le site d'hébergement pour sans-abri rue Albert venait d'ouvrir au public tout juste 2 mois plus tôt. En mode gestion de crise, il a fallu s'adapter rapidement. La Maison Nazareth manquait de tout, mais certainement pas de bonne volonté. Les premiers mois, le gel hydroalcoolique et les masques étaient rares. Malgré cela, le refuge a traversé les premières vagues sans déplorer un seul cas de contamination. À côté de la pieuse apôtre des gens défavorisés, l'entrepreneur Nicolas Parisi apportait une expertise très terre-à-terre. Élu président du conseil d'administration en décembre 2019, il prenait son rôle très au sérieux. Durant la crise sanitaire, il se passait rarement une journée sans qu'il aille faire un tour au refuge, ne serait-ce qu'un quart d'heure, pour s'assurer que tout allait bien et distribuer des encouragements. Il s'émerveillait de la prodigieuse énergie que déployait sœur Rita, une petite femme de 85 ans. « C'est une sainte », disait-il alors à ses proches. « Ce qu'elle fait est merveilleux. Ce sont des personnalités exceptionnelles comme elle » qui incite les gens à s'engager dans l'action bénévole afin de rendre le monde plus juste et plus humain. Terrassé par un AVC, Nicolas Parisi est décédé subitement le 6 avril 2021, à l'âge de 45 ans. une semaine plus tôt, toujours en recherche de solutions, il était encore sur tous les fronts pour défendre la mission de la Maison Nazareth devant les différents paliers gouvernementaux. 2 ans après, il m'arrive encore d'avoir du mal à réaliser qu'il n'est plus là. Je sens sa présence. Il y a tellement de choses qui me font me souvenir de lui. Il a fait beaucoup de bien à sa communauté et je sais qu'on ne l'oubliera jamais, confie Ghislaine Brun, sa conjointe. Sœur Rita Barriot s'est éteinte à son tour en septembre 2022, au terme d'une vie bien remplie qu'elle a consacrée au service des plus démunis. 40 ans la séparaient de Nicolas Parisi, mais tous deux se comprenaient. Ce tandem intergénérationnel, guidé par un profond respect mutuel, a semé des graines d'espoir et de générosité dans son sillage trop bref. C'était Nicolas Parisi et sœur Rita Barriot, main dans la main au service des plus démunis, un texte de Damien Dauphin, paru le 12 avril 2023 dans le Moniteur acadien.
Doux parfum, un texte de Larry Oxon, paru au printemps 2023 dans le magazine Vert. Quoi de plus naturel que de se pencher pour sentir une jolie fleur? Mais le faire pour des feuilles, c'est un peu plus inhabituel. Pourtant, de nombreuses plantes présentent une délicieuse odeur grâce à leur feuillage qui enivrera vos narines. N'attendez plus, lancez-vous dans la création d'un véritable jardin d'essence. Les plantes les plus réputées pour leur feuillage parfumé sont les fines herbes, menthe, origan, basilic, aneth, coriandre, etc. N'empêche, beaucoup d'autres plantes peuvent surprendre par les effluves de leur feuillage si on sait où chercher. Vivaces, annuelles, bisannuelles, même les arbres et les arbustes. Chaque catégorie de végétaux offre son lot de plantes odorantes. Des vivaces au feuillage aromatique. Les achillées. Du côté des vivaces, il y a d'abord de nombreuses espèces d'achillées. Achillea sp, zone 3, dont la plupart partagent un feuillage fortement découpé, gris-argenté, à l'arôme épicé. De plus, leur floraison est très durable. Des bouquets denses et aplatis de petites fleurs, habituellement jaunes, se succèdent presque tout l'été si on supprime les fleurs fanées. Les achillées filipendules, A. filipendulina, peuvent atteindre de 90 à 150 cm de haut, alors que les petites achillées tomenteuses, A. tomentosa, n'atteignent que de 15 à 30 cm. Entre ces extrêmes, il y a toute une gamme de variétés et de cultivars comme l'achillée filipendulée moonshine, aux fleurs jaunes citron, haute de 60 cm, et le Schwellenberg, au feuillage très argenté qui culmine à 30 cm de haut. L'achillée millefeuille, A. millefolium, diffère par son feuillage vert et sa plus vaste gamme de couleurs. Les cultivars peuvent être à fleurs blanches, roses, jaunes, oranges ou rouges. Leur hauteur varie entre 50 et 80 cm. Attention, cette achillée tend à être envahissante, donc informez-vous auprès de votre conseiller en jardinerie afin de la placer au bon endroit. Les achillées préfèrent le plein soleil, mais tolèrent une ombre très légère. Elles affectionnent un sol bien drainé et plutôt pauvre. Les anthémis. Les anthémis, Anthémis sp, ont un feuillage argenté, parfumé à la camomille et fortement découpé. De plus, leurs marguerites jaunes se succèdent tout l'été si on supprime les fleurs fanées. L'anthémis de Marshall, A. marshalliana, synonyme A. rudolfiana, Zone 3 forme des coussins couvre-sol très argentés de seulement 15 cm de haut qui sont aussi agréables à caresser qu'ils en ont l'air. Avec les fleurs, la plante atteint 30 à 45 cm de haut. Attention, il faut la planter dans un endroit bien drainé et très ensoleillé, sinon sa vie sera courte. L'anthémis des teinturiers, A. tinctoria, zone 3, est moins argentée, mais s'adapte mieux aux conditions plus riches et plus humides. Quelle floraison spectaculaire! Secret de jardinier. Installer les plantes à feuillage odorant là où les passants devront nécessairement les frôler. Ainsi, leurs effluves se trouveront libérées à chaque passage. Les armoises. Le genre armoise, Artemisia sp., contient beaucoup de plantes parfumées comme l'estragon français, A. dracunculus sativa. La plupart des espèces ornementales partagent un feuillage argenté à la senteur vaguement anisée, mais leurs fleurs sont moins intéressantes. Elles préfèrent le plein soleil et les sols bien drainés et plutôt pauvres. L'espèce la plus connue est l'armoise Silvermound, A. schmidtiana, nana, synonyme A. S. Silvermound. Elle forme un monticule parfait composé de feuilles argentées fortement découpées. On la rabat au sol si les tiges s'écrasent en juillet et elles reprennent rapidement leur forme. Elle n'est nullement envahissante, contrairement aux autres armoises qu'il vaut mieux contrôler par des barrières enfoncées dans le sol. L'armoise de Steller, A. stelleriana, a des feuilles très argentées et joliment lobées. C'est particulièrement vrai pour le cultivar Silver Brocade qui fait un excellent couvre-sol. L'armoise de Louisiane, A. ludoviciana, diffère des autres par son feuillage entier ou légèrement denté selon les cultivars. La plus aromatique des espèces est cependant l'aurone, A. abrotanum, une espèce arbustive que l'on plantait traditionnellement à la porte de la maison pour embaumer son intérieur. Les géraniums. Les géraniums à grosses racines, géranium macrorhizome, sont sans doute les géraniums les plus faciles à cultiver, car ils croissent aussi bien au soleil qu'à l'ombre totale. Ils font un excellent couvre-sol car, par leur croissance dense, ils étouffent toute mauvaise herbe qui oserait essayer de les envahir. Les grosses feuilles découpées, qui deviennent rouges vifs, orangées et jaunes à l'automne, sont son trait le plus remarquable. Les feuilles ont une odeur médicinale lorsqu'elles sont froissées et les fleurs sont bleues lavande en juin. Il en existe plusieurs cultivars aux couleurs allant de blanc à presque rouge. Autre variété. La Dunstedel, à lobules ponctués, Dunstedlia punctilobula, est l'une des rares fougères ayant un feuillage parfumé. Elle dégage une odeur de foin lorsque celui-ci est froissé. Son feuillage fortement découpé est vert moyen. Elle croît au soleil ou à l'ombre dans tout sol plutôt humide. Attention, ses rhizomes sont envahissants. Peu connue mais spectaculaire, la fraxinelle, Dictamnus albus, a une croissance lente. Elle a le port d'un arbuste et des feuilles rappelant celles du frêne. Les épis floraux terminaux, roses ou blancs, s'épanouissent en juin et juillet. Toute la plante dégage un fort arôme de citron, même lorsqu'on ne froisse pas le feuillage. La monarde, Monarda didyma, est une vivace populaire, proche de la menthe. Elle produit des feuilles tout aussi parfumées que cette dernière, sauf que leur arôme comprend une forte note de citron. Les fleurs, tubulaires, réunies en couronne au sommet de la plante, sont très jolies et attirent colibris, papillons et abeilles. La gamme de couleurs comprend le rouge, le rose, le lilas, le violet et le blanc. Vous pouvez planter la monarde à l'intérieur d'une barrière car elle est plutôt envahissante. La sauge de Russie, Perovskia atriplicifolia, est une vivace presque arbustive. Elle offre des tiges dressées arquées portant un feuillage à l'odeur de sauge, fortement découpé, d'un beau gris argenté. À la fin de l'été, éclosent de petites fleurs bleues portées le long des tiges et donnant l'effet d'un brouillard bleu-gris. Des tapis parfumés. Le thé des bois, Gaultheria procumbens, est une plante indigène qui convient parfaitement aux coins ombragés ou mi-ombragés en sol acide. Ses feuilles persistent tout l'hiver. Ses fleurs, en forme de petites cloches blanc-rosées, sont remplacées par des fruits rouges très durables. Les thyms. En plus des nombreux thyms utilisés en cuisine, il y a aussi des espèces uniquement cultivées comme plantes tapissantes. On peut même planter du thym, Thymus sp, dont la pelouse, pour obtenir un arôme délicieux à chaque tonte. Le thym serpolet, Thymus serpillium, au feuillage vert, est le plus populaire des thyms ornementaux. Ses fleurs, minuscules mais nombreuses, blanches, roses ou rouges, selon les cultivars, recouvrent le sol pendant de longues périodes en été. Le thym laineux, T. pseudo-lanuginosus, offre un feuillage argenté fort décoratif, mais sa floraison rose ne se produit pas fidèlement tous les ans. C'était « Doux parfum », un texte de Larry Oxon, paru au printemps 2023 dans le magazine Vert.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vcvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Hélène Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.